Alors du coup, je propose de ne pas l'utiliser, non.
Non, mais vous
allez parler un peu fort parce que je suis un peu sur
le. C'est un moment de détente.
Vas-y. Alors, bienvenue à tous pour parler des flingueurs du genre. Le genre étant le polar, bien sûr. Alors, j'accueille Sophie Hénaff qui nous présente Rester groupé, son deuxième roman paru chez Albin Michel. Madame Nadine Monfils, que. La célébrité.
Ah, en voilà deux autres.
Ah.
Ah. Venez.
Trop tard.
Venez.
On est en plein débat.
Venez, on est peu nombreux. Ok.
Ça va commencer, je pense.
Prenez une chaise, venez près de nous.
C'est réel table ronde. Non, la table, elle reste rectangulaire.
Voilà. Alors.
Je l'espère. Oui, je vois. Elle me ressemble un peu, vous allez la repérer. Je sais pas si là. On a chopé dans la rue, elle dit venez, montez, c'est loufoque,
c'est bien. C'est bien. Il va falloir qu'on soit drôle. Il a l'air prêt.
J'avais déjà présenté Madame Hénaff qui a. Madame Nadine Monfils qui présente Elvis Cadillac, King Folk Charleroi, et Monsieur Olivier Silic, Jambon Dodu. Voilà. Qui, aux éditions Ellis, hélas. Voilà, donc c'est donc trois romans policiers très iconoclastes, très peu orthodoxes, si on veut, qui détournent et s'approprient les règles du genre. C'est trois livres aussi qui jouent avec le langage et qui prennent certaines libertés avec la réalité.
C'est un acteur.
Je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. Alors, comme forcément, vous n'avez pas forcément tous lu et vous ne connaissez pas forcément tous nos invités, je me propose de leur demander de. Parce que l'auteur n'est jamais aussi bon que pour présenter son livre, de vous résumer en quelques mots. Chacun de leurs livres, comme ça vous savez tous de quoi il s'agit, sinon on va parler un peu dans le vide. Alors, je vous présente donc Madame Hénaff, qui est journaliste à Cosmopolitan.
Oui.
Vous avez avant fait du café-concert, vous avez créé une librairie.
Un bar à jeux de cartes, voilà. Et à jeux de société. Oui.
Voilà, je crois que vous travaillez toujours comme journaliste.
Oui. Oui.
Et vous avez publié en 2015 le livre. Premier de cette série qui s'appelle Poulet grillé, qui a eu plusieurs prix, dont le prix du polar en série, qui récompense un livre qui, pour son potentiel d'adaptation aux séries TV. Voilà, donc nous allons parler justement de ce passage peut-être de l'écran, enfin de la page à l'écran. Mais d'abord, alors présentez-nous peut-être quand même un tout petit peu votre univers et vos personnages.
Alors Poulet grillé dans le premier, mais enfin. Rester groupé, c'est une histoire différente avec les mêmes personnages, mais ce n'est pas une suite, ça se passe après. Mais ça peut dire, voilà, c'est un autre épisode. Le principe, c'est le patron du 36, qui est des orfèvres, qui, pour nettoyer un peu la police du coin, a pris tous les policiers qui ne voulaient pas utiliser, qui voulaient renvoyer, mais qui ne pouvaient pas licencier, parce qu'il n'y a pas de vraie raison de les licencier. Il y en a un, il est porte-malheur, à chaque fois qu'on fait équipe avec lui, on a un accident ou on meurt, enfin bon, c'est un peu un problème. Il y a évidemment alcoolique, dépressif, il y a une scénariste, il y a une romancière scénariste de série télé qui utilise tous ses collègues comme personnages, donc forcément ils ne veulent plus travailler avec elle. Voilà, tous ces flics exclus du système, il y en a un qui est homo, donc on l'a chassé du raid, enfin voilà, tous ces flics exclus un peu de la police parfaite se retrouvent dans une seule brigade à qui on refile des vieilles affaires pas résolues mais sans importance, des vols de portables, de scooters, de choses comme ça. Dans un vieil appart, on ne leur donne même pas un commissariat, et on leur dit, bah écoutez, vous apprenez la belote et puis vous débrouillez.
Et en fait, ils ne se contentent pas de jouer aux cartes.
Voilà. Dans ces vieilles affaires, ils vont trouver deux meurtres qui sont curieusement là et qui peut-être ont besoin d'un deuxième regard. Et en fait, d'être ensemble, d'être exclus, mais de se retrouver ensemble, ça va un peu les motiver, leur redonner goût à leur métier aussi. Et puis, sans aucun moyen, ils n'ont ni toki-woki, ni sirène pour leur voiture, ils n'ont rien du tout. Sans aucun moyen, ils vont se débrouiller avec leur imagination pour résoudre cette enquête. Voilà.
Et dans ce livre, précisément, il y a le personnage principal qui s'appelle Anne Canestan. Elle est mal barrée, si on peut dire, puisqu'en fait, c'est son ex-beau-père qui est assassiné. C'est un tueur très, très sournois, parce qu'en fait, il annonce à ses victimes, je peux dire ça sans dévoiler les mots, il annonce à ses victimes qu'elles ont... En fait, par exemple, il ajoute leur nom à une liste de
monuments aux morts.
Voilà, sur une plaque. Une plaque de rue, il dévisse, il change la plaque. Alors la personne se dit, oula, c'est moi. Voilà. Alors, avec Madame mon fils, on fait un pas de plus, je dirais, dans la folie.
Dans la
rocambolesque, hein, si on veut. Alors, vous avez une œuvre déjà assez colossale, je ne sais pas, une vingtaine de livres ou...
Oh non, plus.
Plus, hein, bah,
alors, j'en ai écrit 70.
Voilà. Pardon. C'est le... Hein?
Bah ouais. Voilà. C'est le 70e Luis Cadillac. Voilà.
Et alors,
j'ai commencé,
Elle vit en partie à Montmartre.
J'étais plus vieille quand j'avais 20 ans.
Ah oui, alors, je
vais... Pluriel ou Pluriel? Pluriel,
Pluriel. C'est au pluriel. Oui, oui. Moi, je l'ai malheureusement pas ici. Pas. Alors voilà, Luis Cadillac. Ça, c'est une nouvelle enquête avec un nouveau personnage, parce que madame a créé plusieurs personnages. On peut dire que ça vous aussi tout fait dans votre vie. Non seulement vous écrivez
plein de bêtises,
mais vous avez fait du théâtre, vous avez tenu une galerie d'art, vous avez reçu beaucoup de prix, vous êtes aussi réalisatrice. Voilà. Et vous avez créé plusieurs héros. Hein. Le premier, il s'appelait le commissaire Léon, je crois. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais il y a une autre qui s'appelle Mémé Cornemuse, qui a eu plusieurs épisodes. Et maintenant, c'est un nouveau venu, Elise Cadillac. Alors peut-être vous raconter ce personnage en deux mots. On raconte, c'est pas possible de raconter cette histoire, mais enfin, l'état d'esprit de votre livre, comment vous l'avez conçu?
C'est un livre assez pété, quoi. C'est... ce que je pourrais vous dire, c'est Elvis Cadillac, c'est le sosie pourri de Elvis Presley, hein. Et il lui arrive un tas d'enquêtes, d'aventures. Il est là, dans celui-là, il est invité à l'anniversaire d'une vieille dame et tombe dans une famille vraiment de dingue. Il fête l'anniversaire de la vieille, mais ils n'ont qu'une envie, c'est qu'elle claque parce qu'il y a l'héritage derrière, quoi. Donc ils sont tous là. Donc ils vont tout faire et à un moment il va lui arriver quelque chose et donc tout le monde va être soupçonné, quoi. C'est parce qu'ils sont tous, ils ont tous un intérêt, voilà. Et donc Elvis va mener son enquête, mais c'est un mec complètement qui pourrait être réel, hein, parce qu'en fait je suis partie de quelqu'un d'un de mes copains qui s'appelle Johnny Cadillac, qui est le sosie de Johnny Hallyday, voilà. Et il est extraordinaire, parce que c'est le gars, il parle comme Johnny, il est habillé comme Johnny, avec les mêmes tatouages, tout ça. Et un jour il m'invite dans son, il parle comme ça, et un jour il m'invite dans son chalet dans les Ardennes. C'est un chalet qu'il a fabriqué lui-même, quoi. Donc c'est déjà un peu bric-broc. Et donc sa table de sa lampe de chevet, c'est la tête de Johnny, son oreiller, c'est la tête de Johnny, son bidet, c'est la guitare à Johnny, enfin, c'est comme ça. Et quand on le connaît pas, on se dit bon, il est pas fut-fut, quoi. Et puis quand on commence à parler avec lui, il est en train de griller ses saucisses là, et tout d'un coup, plus quelques rosés, et il commence à me parler de Nietzsche, de Sartre, de Kant. Je dis mais t'as lu ça? Ouais, qui me fait, j'ai fait philo.
C'est qui, c'est d'autres musiciens, ça?
Et donc, oui, il a fait des études de philo, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un personnage qui a l'air comme ça, un peu bretzinc, populaire, le mec qu'on peut rencontrer dans n'importe quel bistrot un peu pourri, et qui, au fond, a une autre facette, et qui est un passionné de lecture. Et c'est un mec qui est cultivé, il n'en fait jamais étalage, mais il y a autre chose. Et alors, pour mener son enquête, comme il croit beaucoup au King, c'est son dieu, eh bien, il y a un moment donné, il y a son portable qui va sonner, et c'est le King qui l'appelle, et qui lui donne des clés pour dénouer son enquête à travers ses chansons. Et alors, il a toujours sa chienne, Priscilla, évidemment, qui a une banane rose sur la tête et qui est une espèce de carlin qui rote et qui pète et qui, voilà, qui le suit partout.
Et puis, alors, bon, maintenant, un pain en plus, dans la, si on peut dire, parce que là, il y a une histoire qu'on a à suivre. Jambon dodu de Claude Sivic chez Lycélas, donc. Alors là, on a l'impression que c'est le langage qui dicte l'histoire. Peut-être que je me trompe. Donc vous êtes aussi quelqu'un qui a fait de tout. En fait, on a des gens très polyvalents ici. Vous avez fait les Beaux-Arts à Londres, hein, si j'ai bien compris. Vous avez fait des études de psychologie, ce qu'on voit très clairement là-dedans. Vous avez travaillé comme informaticien, ce qui aussi apparaît très clairement. Et vous êtes actif dans le milieu du cinéma et du théâtre. Et puis vous êtes quand même auteur d'une dizaine de livres, mais pas tous des polars, si j'ai bien compris. Hein. Enfin, Donc, parlez-nous de Jambon dodu.
Et puis je suis en principe un auteur qui crée des choses, des livres très sobres avec des phrases très très courtes, même extrêmement courtes pour l'an. Et puis j'ai de la peine à raconter ça parce que je suis d'accord que il y a quelques années, une fois pour m'amuser,
mais donnez-nous peut-être chez vous quelle est le, oui, quelle a été l'impulsion. Ouais.
Alors il y a quelques années, il y a longtemps, parce que mes livres paraissent dans un ordre bizarre et quelquefois très très longtemps après avoir été écrits, mais il y a quelques années je me suis mis à taper sur l'ordinateur, en général j'écris à la main, mais là je me suis mis à taper des jeux de mots écrits, or je déteste les jeux de mots écrits. Et puis j'ai écrit 30 pages comme ça, et puis assez longtemps après j'ai relu ces 30 pages, puis je me suis dit, ah c'est pas mal, et j'ai continué, et maintenant ça en fait 290.
Bah, vous pourriez peut-être nous donner un petit exemple, parce que c'est un livre qui... Est-ce que c'est un livre qui se lit à haute voix ?
Alors, je pense pas. Même si hier soir, à ma performance, j'ai lu un bout, mais que c'est un bout que j'ai choisi, etc. Voilà. Et puis, moi, mon souci pour ce livre-là, c'est que je crois que si je tombais dessus, je l'achèterais pas parce que je n'entrerais pas dedans. Mais je crois que si on dépasse les 30 ou quelques premières pages qu'on entre dans le délire, qui sont des jeux de mots, j'ai supprimé les jeux de mots qui étaient trop compréhensibles. Donc il faut se laisser porter par la
musique.
C'est du Proust, je sais pas, moi je suis jamais arrivé à dire Proust, mais au moins ça, je parle pas d'histoire mondaine, c'est quand même un vrai polar, puisque il y a des morts, des meurtres, ça. Et pour finir, il y a une espèce d'intrigue qui vous l'avez lu jusqu'au bout ou pas ?
Toujours.
Petit à petit, on est quand même pris par une espèce de curiosité d'intrigue, il me semble.
Il y a quelques petits jeux de mots un peu agaçants.
Ouais.
Le braisé, là. Parce qu'un de ces personnages, un des flics s'appelle Confi, donc ça s'appelle braisé. Et il a son beauf. Bourgogne,
exactement. Voilà. Et puis les deux premiers morts, il s'appelle Jean Dedu, mais ses copains l'appellent surnomme Jambon Dedu. Et puis tout est là-dedans. Et à la fin, là, c'est marqué dans la quatrième couverture un roman pas du tout vegan, parce que le même ce printemps, j'ai sorti un livre vegan aussi. Alors, c'était bien que il y a un livre qui garantissait que c'était pas vegan.
C'est quoi vegan?
Vous avez publié des livres pour enfants.
Alors, j'ai sorti cette année un livre pour enfants dont je suis l'auteur et l'illustrateur. Et puis, c'est une histoire, c'est marqué une autofiction pour les enfants de 5 à 65 ans, mais c'est pas du tout une autofiction. C'est quand je l'ai relu, je me dis, mais c'est incroyable, tout est autobiographique, etc. Donc, c'est une autobiographie qui explique comment j'ai arrêté de pêcher les petits poissons et de fil en aiguille, comment j'ai décidé de ne pas tuer des animaux, de ne pas tuer les animaux, j'en mange, et encore moins de tuer des humains. Donc ça, si je veux, ma vocation non violente, elle vient d'un petit poisson que j'ai tué qui m'a regardé de travers, et ça c'est le livre. Ah, ça a plu à mon éditrice qui a édité par exemple ce livre-là, qui n'est pas du tout vegan non plus, mais ça lui a plu, puis elle l'a mis dans sa collection vegan. Mais donc c'est un heureux concours de circonstances.
Alors, je crois que Sofiana vous avait dit que de votre premier livre, mais j'imagine aussi du second qui s'inscrit quand même dans la même veine, que c'est un polar bienveillant. Et j'ai trouvé ce mot très intéressant parce que, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et si c'est important cette bienveillance? En fait, on sent que vous avez une affection pour vos personnages.
Oui.
Ils sont pas... Et je crois que vous en aviez aussi marre, c'est bien vous. Je crois que vous aviez un peu marre de ces alcoolos, de ces flics qui...
Du personnage classique du polar qui est toujours qui prend la quintessence, et dans le roman suédois, voilà, chez Mankell, que par ailleurs j'aime beaucoup, voilà, hein, c'est mais qui est toujours un personnage un peu dépressif, alcoolique, puis c'est noir, 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 et puis j'adore les polars, hein, donc j'en lis, hein, c'est pas une critique non plus, mais c'est toujours, on se sent un peu englué dans les univers polars souvent, et j'avais envie d'un peu d'optimisme et de bienveillance aussi, parce que le polar souvent dissèque la société et surtout les problèmes de la société en ayant un regard assez aigu. Donc on a des personnages qui sont assez antipathiques, toujours avec pas mal de perversions, etc. Et pareil, on sort de là un peu. Et je voulais un regard sur les personnages un peu plus optimiste. Avec des personnages exclus, parce que c'est quand même...
Ils ne sont pas des personnages angéliques non plus.
Ils ne sont pas angéliques non plus. C'est pas rose, mais ce n'est pas noir.
Voilà, ouais.
Là, ce sont des personnages qui sont exclus pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, mais qui sont enthousiastes, quand même le plus crétin d'entre eux est un crétin fini, il le sait, mais il est enthousiaste et volontaire, donc il n'y a pas que l'intelligence comme valeur dans la vie, il y a aussi il y en a beaucoup d'autres et voilà, de briques et de broc quand même, bah, avec un petit peu de volonté ils s'en sortent et ils s'aiment bien les uns les autres, malgré effectivement voilà, des différences des différents parfois irréconciliables, mais c'est... Il s'apprécie et c'est ce qui permet aussi cette foi en l'incompétence qui permet aussi de s'en sortir, parce que finalement, en faisant les choses de travers, on peut obtenir des résultats parce que justement c'est de travers et que personne s'y attendait. Par exemple, ils font une poursuite en motocrotte, mais la motocrotte, c'est pas mal du tout pour se planquer parce que c'est très discret. Mais bon, c'est quand même pas très valorisant. Mais c'est discret, c'est efficace. Voilà. Le babyphone pour espionner, c'est très discret. Et effectivement, c'est pas très techno. Ça passerait pas dans un épisode des experts, mais voilà. Au fond, on peut s'en tirer très très bien avec un babyphone.
Et puis là, on peut dire sans révéler voilà. Tout que dans Rester Groupé, en tout cas, une dame le pion à la police officielle.
Quoi. Oui, enfin, voilà. Dans Poulet Grillé aussi. C'est tout, quoi. Ils obtiennent des résultats que les autres n'ont pas obtenus parce que voilà, ils s'en remettent un peu plus à l'esprit d'équipe.
On leur donne tous les trucs les plus pourris qui soient, les affaires non résolues, quoi. Voilà. Et chez vous, est-ce qu'il y a aussi cette bienveillance? Chez vous, est-ce que l'humour, la drôlerie, qu'est-ce qui est premier, la drôlerie ou le polar ou l'enquête? Parce qu'en fait, vous êtes quand même dans le. Mais est-ce que vous vous laissez porter par la langue et puis vous inventez au fur et à mesure? Ah, ou est-ce que vous avez une trame très...
Non, moi j'ai un vague squelette, comme ça. Voilà. Et après, je batifole dedans. Et puis il y a des fois, je me dis, tiens, celui-là, je vais le tuer. Et puis finalement, non. Ou l'inverse. Et alors, donc, l'enquête part autrement. Mais il y a toujours. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut toujours. Ça a l'air comme ça, foutraque, mais quand on écrit un polar, j'écris plein d'autres choses que des polars aussi, donc j'écris des romans, tout ça avant. Mais je trouve que le polar, qui est considéré comme une. Maintenant, ça va mieux, c'est plus une sous-littérature, mais quand un peu une littérature de guerre ou populaire, moi, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut, dans cette espèce de folie, avoir une rigueur, avoir un fil rouge, mais vraiment, c'est une toile d'araignée. Donc, même dans cette folie-là, il faut toujours rattraper un fil ou l'autre. Et si je connaissais à l'avance l'assassin, ça m'amuserait plus, quoi, de l'écrire. Donc je suis comme vous, quand vous lisez un bouquin, vous ne savez pas ce qui va se passer, mais moi non plus. Hein.
Mais bon, voilà, il y a quand même un moment donné où vous faites intervenir le surnaturel, on peut dire.
Ah oui, parce que je trouve qu'il fait partie de la vie.
Voilà. Donc,
dans ma vie, il y a plein de choses surnaturelles. Donc j'ai commencé à vivre avec.
Voilà. C'est le réalisme magique à la version française.
Oui, j'ai un petit côté Alice au pays des horreurs.
Et qu'est-ce que vous... Jusqu'où vous vous permettez d'aller?
Ah, j'ai pas de limite, moi. Aucune. Alors là, aucune limite.
Ça peut décoller complètement.
Ah oui, oui, oui.
Mais tu as dit, Anastasia, que tu veillais quand même à ce qu'il y ait une certaine cohérence.
Ah, dans l'intrigue, hein. Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais pour mes personnages, ils sont capables de tout, quoi. D'ailleurs, il faut voir... Mes cornemuses, elle est... Vraiment, elle est... Elle ose absolument tout, c'est la pire vieille bique que je connaisse. Quoi.
Et puis là, vous l'avez décidé, elle n'est pas morte, elle.
Non, elle n'est pas morte, elle revient là. Elle revient avec mon deuxième Elvis, là, je suis en train de... Elle va lui pourrir la vie à celui-là.
Ah, voilà. Ouais. Donc ça, c'est le premier...
C'est le premier, oui. Voilà.
Mais vous aviez besoin d'un autre personnage, pourquoi tout d'un coup créer un autre?
J'ai changé d'éditeur et mon éditrice me dit allez, nouvel éditeur, pas inventer un nouveau personnage, tout ça. Et donc là il y a un clin d'œil à Mémé Cornemuse dedans. Et puis en même temps, j'avais pas envie de la quitter. Et les lecteurs, ils adorent ce personnage. Je me suis dit bon, bah allez, je vais. Elle me parle. En tant qu'elle me parle, ben, je continue avec elle, quoi. Donc elle revient pire que jamais.
Parce qu'elle est déjà dans les Léons.
Non, pas dans Léons. Elle est dans les. Dans les vacances d'un serial killer et puis dans les autres.
Ah, mais dans.
Mais une anecdote par rapport au Léon, par exemple. À un moment donné, j'ai voulu le tuer parce que.
Mais lui, c'était un personnage plus classique. C'est un commissaire.
Classique. Il tricote en cachette depuis qu'il a arrêté de fumer. Il tricote des paletots ringards pour son chien qui parle. Enfin, nous, il n'est pas vraiment classique. Enfin, peut-être que vous voyez la police comme ça. Hein.
Ils sont tous comme ça.
Mais à un moment, j'ai voulu le tuer, quoi. J'en ai écrit 12. Je me suis dit, bon, ben, c'est comme. Enfin, moi, j'ai un peu un truc, quand une histoire d'amour, quand je sens qu'elle. Comment dire, qu'elle perd un peu de son envol, je préfère partir avant, quoi. Et donc, avec mes personnages, je me suis dit.
Quitter avant qu'il.
J'aime autant le quitter dans l'apothéose, quoi, avant qu'il décline. Et voilà que je fais le film avec Michel Blanc. Et comme je crois quand même un peu à toutes ces choses bizarres, sorcellerie, machin, tout. Je me suis dit, mais attends, si tu le tues, il va peut-être arriver un truc à Michel. Quoi. Ah ouais. Donc, du coup, je n'ai pas pu le tuer. Je l'ai rendu un peu, mais pas pu le tuer.
Donc, Michel est un peu, mais
ouais,
il
n'est
pas mort. Et quand vous passez à l'écran, alors le personnage renaît sous une autre forme, enfin, vous le réadaptez, ou bien, quelle est la distance entre le livre et le film?
Mais moi, j'ai fait une adaptation. J'ai quand même un univers très particulier.
C'est vous qui faites l'adaptation.
Ah, et tout. J'ai fait tout le bazar, quoi. J'ai fait la réalisation, le storyboard, la direction d'acteur, le scénario, tout ça. Parce que justement, comme j'ai un univers à part, les autres réalisateurs, ils comprennent pas, ils voient pas mes images. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des producteurs qui ont cru en moi et les acteurs surtout, qui ont tous. Accepté, donc c'est fidèle à mon roman quand même. Avec à un moment donné, c'est quand même une autre gymnastique, hein, parce que c'est traduire en image, voilà, en gardant la truculence des dialogues, mais c'est l'image qui prime quand même.
Et puis vous, Sophie-là, vous êtes en train de travailler à une adaptation, ou parce que bon, vous avez eu ce prix, mais enfin, ce prix ne donne pas.
Non,
récompense juste un état d'esprit. Quoi.
Oui, en plus, le prix récompense effectivement un état d'esprit, mais il se trouve que l'adaptation, c'était déjà, les droits étaient en fait déjà vendus avant que j'ai le prix. Enfin, vendus en discussion en tout cas avec la maison de production qui finalement les a achetés. Mais en revanche, c'est pas moi qui m'occupe de l'adaptation. C'est eux qui le prennent en main. Moi, j'ai juste. Vendu les droits, et encore, c'est même pas moi qui l'ai fait de l'éditeur.
Voilà,
donc voilà, ils sont pris, mais je n'ai aucun droit de regard ni quoi que ce soit sur le devenir de ces poulets. D'ailleurs, j'en conçois une petite peur que je.
Tu n'as aucun droit de regard?
Bah, ils n'ont pas le droit d'en faire des terroristes ou des personnes. Il y a le droit moral qui s'exerce.
Faut pas qu'ils trahissent en œuvre quand même.
Mais c'est tout. Je crois pas qu'il y ait. Je sais. Donc pour le coup, j'ai décidé de faire moi-même un autre scénario. Et donc,
Prends un agent.
mais comme vous l'avez dit, vous avez pensé à cette possibilité d'une adaptation?
Non.
Une série
ou non, quand
série.
J'ai écrit, j'écrivais un roman. J'avais envie d'écrire un roman. J'avais très très envie d'écrire un roman. Parce que je lis beaucoup. Mais je regarde aussi beaucoup la télé et beaucoup le cinéma. Et donc en fait, ça se sent un peu dans mon écriture. Il y a un univers télé-cinéma, c'est-à-dire je fais des chapitres qui sont très très courts, comme des scènes. C'est plutôt
des dialogues.
Des dialogues, c'est plutôt assez visuel, etc. Et au final, à chaque fois que les gens lisaient mon livre, la première réflexion c'était ça ferait une bonne série télé. Donc c'est parce que l'écriture correspond au format, je pense. série télé.
Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les personnages, enfin, le dessin est repris de l'un à l'autre.
Oui, ça, oui, oui. Ça, c'est le dessin original pour la première couve, avec toute la bande.
Toute la bande, ouais.
Et pour le premier, on avait choisi de cadrer les quatre premiers personnages. Et pour le deuxième, bah, on a remis tout le monde parce qu'il y a encore plus de monde, en fait.
C'est ça. Ouais, ouais.
Donc, mais c'est le même dessin, et pour identifier un peu visuellement la série.
Mais c'est une question que je pose à vous trois. Est-ce que, voilà, écrire un polar, on se documente beaucoup. Je crois que vous êtes documenté. Est-ce que vous documentez aussi, sur une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a toute une bien, est-ce qu'il y a une écriture un peu flottante?
Moi, je suis un collab sur Elvis, hein. Il faut y aller, hein. Non, c'est sérieux, j'ai lu plein de tout, j'ai vu plein de films sur lui, et je continue d'ailleurs.
C'est un plaisir.
Bien connaître. Bah ouais, ouais.
Vous aviez déjà des liens avec...
Non, alors en fait, c'était le premier roman, c'était très très compliqué pour moi.
Parce que vous auriez pu prendre une journaliste. Il n'y a pas de journaliste, hein, celle qui écrit.
Non.
En fait, souvent les gens... Éric Despolaires, le personnage principal à leur métier, ou avocat, ou journaliste, ouais. Ça arrive très souvent, en fait.
Non, mais moi, ma vie n'était pas assez intéressante pour faire un bouquin. Donc, je voulais pas faire...
C'est pour ça qu'on écrit.
Oui, mais pour faire quelqu'un d'autre, je voulais pas faire une sorte de double...
personnage, c'est pas...
Ouais, non.
Pas du tout. Pas toujours. Il faut avoir une vie passionnante et écrire quand même, parce qu'on n'a pas envie de raconter sa propre vie. On ne nous croirait pas parfois. On dirait qu'on exagère.
Alors oui, alors donc vous avez pris des contacts, vous êtes...
Alors pas du tout. Quand j'ai écrit, j'étais tellement concentrée sur mes personnages et l'intrigue, c'était déjà assez compliqué, que j'ai pas pensé une seule seconde à faire des recherches sur la police.
D'accord.
Alors qu'effectivement, étant journaliste de métier, ça aurait dû me venir à l'idée, j'aurais dû y penser, mais j'y ai pas pensé. Et quand j'ai fini le premier manuscrit, je le présente à un éditeur, machin, on discute, et il me fait... Et donc, t'as étudié un peu les trucs de la police et tout. Et là, tout d'un coup, je l'ai regardé et je me suis dit, ah tiens, non, pas du tout.
Faut dire oui, bien sûr.
Puis, non, pas tellement, mais... Et en fait, une fois chez moi, je me suis dit, mais oui, il faut absolument que je regarde si je dis pas des trucs complètement à côté de la plaque. Et pour le coup, là, j'ai lu énormément et je me suis beaucoup, beaucoup documentée. J'ai rencontré des flics, etc. Je me suis aperçue qu'en fait, la première version, il n'y avait quasiment aucune erreur parce que la culture télé suffit à connaître en gros.
Pour autant que la télé soit juste.
Non, le seul truc, c'est que ce soit décalé dans le temps. Ouais. Par exemple, mon personnage, au début, je l'appelais l'inspecteur machin. Bon, ça n'existe plus depuis 30 ans. Maintenant, c'est lieutenant, commandant, etc. Alors qu'avant, c'était inspecteur.
Ouais.
Donc voilà. J'ai corrigé ces trucs-là et puis je l'ai fait lire à des policiers. Qui m'ont dit, eux, carrément, que la brigade existait.
Ils t'ont pas arrêté.
Ils savent pas qu'ils en font partie, en plus.
C'est ça. Réalité, au 36, ils ont fait une brigade qu'ils ont appelée les anti-tout. C'est évidemment pas officiel. Et dans lequel ils ont mis tous les flics dont ils voulaient pas. Mais ça, je le savais pas avant d'écrire.
Comme le gouvernement français.
Ouais. Et alors ce genre d'odu, vous imagineriez de mettre en image?
Non, il y a beaucoup. Normalement, j'ai une écriture très cinématographique, mais celui-là, non, pas du tout. Mais après, non, j'ai jamais pensé de mettre, ni même à proposer derrière.
Et comment vous l'avez écrit alors? Très vite?
Non, j'ai écrit en plusieurs tranches, puisque j'ai écrit un petit bout d'abord, juste pour rigoler. Après, j'ai continué longtemps après. Mais c'est tout à fait marginal par rapport au reste.
Et vous-même, vous êtes apparemment, vous avez écrit un autre polar. Donc, en fait, vous avez un lien avec le polar. Vous êtes un amateur de polar ou pas du tout?
Pas tellement. Mais j'ai, le premier roman que j'ai écrit, c'est de la science-fiction.
Voilà.
Il a été publié à la Talente. Et ils m'ont dit, en le publiant en science-fiction, parce que ça se passe dans le futur et que c'est la définition de la science-fiction, puis ils ont raison, c'est simple. Mais c'est très, 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 très en bordure de la science-fiction. Et puis, tous les romans que j'écris, en principe, ils sont tous en bordure de toute chose. Ce qui me convient. Moi, je suis aussi un tout petit peu en bordure de l'existence, donc ça va. Et donc, c'est un point... Je pense que j'ai réfléchi comme écrivain. On est un peu voyeur. Moi, j'ai vu que j'ai mes oreilles qui sont assez voyeuses. Ça veut dire que je capte beaucoup, beaucoup... J'ai réalisé ça dernièrement, que je capte beaucoup de conversations, de choses comme ça, etc. Quelquefois, je prends des notes, mais pas toujours.
Et puis, en fait, on essaie de... Enfin, moi, j'essaye de à partir de mon fonds de commerce à moi, plus que ce que je capte, à créer une vie qui soit plus intense que la vraie vie, puisque la vraie vie, ça dure plus que 600 pages par jour. C'est très long, donc quand on fait un roman, on essaie de faire quelque chose qui est un peu plus intense et un peu plus excitant, je trouve. Et puis je parle très bien des choses que je connais mal, par exemple, là-dedans, je parle beaucoup, beaucoup de sexe. Il y a beaucoup, beaucoup de dames qui étaient charmantes, charmées. Moi, je connais presque rien.
Bon, la prise.
Et puis, je parlais beaucoup de prison, de guerre et d'armée. J'ai jamais fait.
Oui, vous avez fait un livre sur la guerre.
Ouais. Même plusieurs.
Mais ça veut dire que c'est votre. Que c'est comme dans Jean Bondonu, que ce serait une guerre fantasmée. Où vous êtes. Elle est nourrie de votre connaissance de ne serait-ce que.
Alors, j'ai fait un roman historique qui se passe au XVIIIe siècle, qui est sur la chair à canon. Et là, je me suis documenté le plus possible. Ça m'a pris beaucoup de temps. Sauf qu'il n'y a aucun. On n'a jamais écrit sur la chair à canon parce que, déjà à l'époque, on s'en foutait des gens qu'on envoyait se faire massacrer. Il n'y avait que les têtes dirigeantes qui les envoyaient se faire massacrer dont on parle. Mais là, je me suis documenté. J'ai essayé de dire plus que des choses vraisemblables. Et je me suis renseigné sur comment on tirait au fusil à l'époque, etc. Donc, je me suis beaucoup documenté. Puis il y a d'autres choses, d'autres fois où je me suis simplement laissé porter par. Mon imagination, mais Kavanagh, que j'aime beaucoup. Enfin, Kavanagh, il a écrit deux livres magnifiques qui sont les Rital et les Ruskov. Et puis, il a écrit des romans historiques autour de Clovis. Sur les quatre qu'il a écrit, il y en a trois qui sont très bien. Puis le dernier est raté. Mais il a dit avec Clovis, on est obligé de se tenir à la réalité factuelle des événements qu'on sait qui sont passés, mais on peut broder tout ce qu'on veut autour. Puis, je trouve que c'est une bonne ligne de conduite aussi. Je pense que toi, tu essayes de perdre. De pas dire trop de conneries par rapport à la police, mais tu en as corrigé une ou deux après, parce que tu as vu que c'était plus d'actualité. Mais tout ce qu'on peut tout broder au milieu, puis si on y croit, c'est crédible, je crois. Et c'est vraisemblable. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger, qu'a dit M. Terence Hill. Non, Terence l'autre. Un esclave carthaginois.
Est-ce que vous écrivez. Parce que vous avez des productions en plus d'un métier. Vous avez une production assez importante, vous en êtes encore au début. Bon, alors est-ce que vous êtes en train d'écrire la suite ou est-ce que c'est terminé?
Oui, pour l'instant, non, j'écris la suite, j'en ferai au moins trois, je sais pas si. Dans cette série, hein, je veux dire.
Voilà,
Cette série, j'en ferai au moins trois, donc il en reste un. Après, je sais pas, peut-être je continuerai ou peut-être je changerai de personnage, je sais pas encore.
Mais en fait, c'est le roman policier qui vous a amené à l'écriture ou vous aviez fait des essais que vous n'avez jamais publiés ou... Enfin, l'écriture. Romanesque, en fait.
Oui, oui. J'ai pris le roman policier parce que ce que j'aime dans le policier, comme disait Nadine tout à l'heure, c'est qu'il y a une intrigue. De toute façon, il y a quand même une histoire à un moment et faut la travailler. Et il y a quand même une promesse de non-ennui au lecteur. On va quand même lui raconter une histoire qui a un début, un milieu, une fin. On va pas juste balancer des trucs et puis débrouille-toi avec, c'est ma vie à Paris et c'est mon nombril et j'ai plein de choses à raconter là-dessus. Là, on est obligé de partir sur autre chose. Donc j'aime cette promesse et puis ça me permet, enfin c'est une écriture donc qui est forcément avec des contraintes et c'était pas mal d'avoir des contraintes au départ, ça permettait de pas partir dans toutes les directions. Mais justement, avant, j'avais eu un petit projet d'écriture mais que j'ai tenu une dizaine de pages sur... une histoire d'amis qui se retrouvent sur la plage, donc un truc vachement original. L'objectif de l'héroïne, l'objectif principal, c'était de réussir à nager avec des otaries. Donc, j'ai pas tenu plus de 10 pages. Ce qui est dommage, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Non, mais à un moment, il y a une otarie qui la mange.
Oui. Ah, là, c'est là où
ça rebondit.
C'est là où ça rebondit. C'est le point de départ du truc, finalement.
Elle laisse un bras sur la plage.
Je vais le récupérer, mon roman.
Vas-y.
J'essaye. Donc voilà.
Ah, ouais, et ça vous a pris combien? En fait, apparemment, c'est rapide. En fait, vous avez écrit vite. Puisqu'en fait, oui. Un est paru en 2015 et l'autre en 2016.
Alors, quand le premier est paru en 2015, j'avais quand même déjà l'histoire du deuxième de la dette. Mais c'est vrai que je l'ai fait en trois mois. On trouve dans ce coup-là.
Et est-ce que vous avez le sentiment que vos personnages, vous avez des préférences qui ont changé entre les deux livres? Est-ce que vous avez des rapports avec le personnage? Vous avez un personnage que vous préférez?
Alors oui, c'est tous mes préférés, mais réellement, en fait, à chaque fois que j'écris sur un personnage, je me dis, ah, c'est vraiment, je l'aime bien celui-là et tout. Voilà. Aussi,
bon. Parce qu'il n'y a pas de personnage qui serait que noir. Il n'y a pas un personnage qui...
Ils sont pas que noirs ni que blancs, ils sont comme nous, avec des faiblesses, et quand même des petits moments de gloire, parce qu'on en a aussi. Voilà. Le personnage que je préfère écrire, c'est peut-être quand même celui de Rosière, parce que c'est comme elle a un langage qui est, fleuri au minimum.
Alors, dites-nous un peu, c'est cette personne qui écrivait des romans.
Voilà.
C'est la romancière.
La romancière.
Fait des polars, elle écrit.
Voilà, romancière, série télé, etc., qui est devenue millionnaire. Et qui est d'une assez vulgaire, et de tempérament, et de.
Et de vêtements.
Et de vêtements et de langage.
Mais très touchante.
Voilà, qui est un personnage que j'aime, que j'aime beaucoup, et puis qui permet de bien se défouler, parce que là, on peut y aller. Ce qu'on a raconté, mais sous prétexte qu'elle est vulgaire, effectivement, on ne peut pas penser qu'elle soit ni lettrée, ni intelligente, ni quoi que ce soit, et en fait, c'est un peu ça. Et puis, sa solitude, parce qu'elle s'est isolée en étant, en ne se consacrant qu'à l'écriture, alors que dans la police, elle avait des collègues, et dans l'écriture, elle était plus toute seule, et c'est pour ça qu'elle retourne dans la police, pour retrouver de la compagnie.
Et vous, alors, vous écrivez vite? Comment vous écrivez? Est-ce que vous corrigez beaucoup?
Non.
Me trompe bien tout de suite.
Non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'après avoir écrit autant de romans, c'est comment dire, c'est...
Ça coule, c'est sûr.
Voilà, il y a le métier qui est dans les pattes, je ne corrige pas beaucoup. Il y a toujours dans toutes les maisons d'édition un correcteur qui passe après, mais au début on me corrigeait tous mes belgicismes. Alors c'était.
Et maintenant vous les cultivez.
Et maintenant voilà, comme ça marcherait très bien, mais non, on me dit mais vas-y, hein, lâche-toi, maison. On m'embête plus avec ça, très très bien. Et avant je mettais 2 mois pour écrire un roman. Maintenant je deviens un peu feignasse. J'aime bien me balader avec mes copains, batifoler, tout ça, prendre mon temps. Et comme ils peuvent pas me publier plus d'un roman par an, parce qu'avant j'étais dans un trip de série, par exemple, il y a une époque je publiais 5 romans par an. Les Commissaires Léon, ils sont sortis en 2 ans, les 10.
Ah oui.
Ouais. Et ici c'est on peut publier qu'un grand format par an d'un auteur. Et tout. Moi ça m'embête parce que du coup quand j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je glande quoi. Donc j'ai envie de Je sais pas, il faut que je trouve une solution pour pouvoir continuer à écrire. Parce que là, j'ai des romans à l'avance. Et c'est embêtant. Donc, je sais pas si je vais pas prendre un pseudo, un truc comme ça. Bah oui, parce que sinon, moi, quand j'écris pas, je suis pas bien. Je suis une angoissée. Donc, écrire, ça me... Tu vois.
Des scénarios,
ouais,
des théâtres. Après,
j'écris des pièces. Tout ça, je fais ça. Ouais. J'ai toujours fait ça. J'ai écrit 10 de pièces qui ont été jouées. J'en ai une... avec Andrea Ferriol là, et Jean-Claude Dreyfus. Mais le théâtre, c'est long à monter. Ouais. Et le cinéma, c'est...
Oui, donc c'est encore plus d'un an.
C'est une grosse galère. C'est 7 ans, c'est un film pour le monter. Donc,
vous écrivez très vite. Enfin, c'est
mais j'écris dans la passion, dans le jus, dans le... Voilà, je suis passionnée, donc je dois être dans cette bulle-là pour écrire. Et du coup, maintenant que je suis dans le côté un peu... plan, là, je me dis, je suis feignasse, quoi, ça va pas. Il faut un truc... Il faut que ça m'excite.
Et alors, vous, peut-être, on va peut-être après passer si vous avez des questions, mais alors, vous, comment vous écrivez?
Moi, d'abord, mes livres, ils sont pas...
Ce livre-là, vous avez dit que vous l'avez écrit
plusieurs fois. Mes romans, donc, j'en ai 11 qui sont parus. Puis il est sorti 20 ans après que j'ai écrit. Et puis, le truc qui est paru le plus vite après que j'ai écrit, c'est 3 ans, je crois. Et puis, comme je numérote les manuscrits que je fais, là, je viens de terminer le R20. Donc, j'en ai encore 9 en provision. Et donc, même peut-être, je pourrais continuer à publier après ma mort.
Toi,
tu pourrais
faire des
réserves. Mais je suis un écureuil, pas pour le plaisir.
Et les mettre à la banque, dans un...
Ouais, voilà.
Moi, j'ai 8 éditeurs, je crois, parce que chaque éditeur est après déçu et surpris d'avoir
le même livre.
Il faut les vendre à des gens qui veulent être.
À chaque fois, ils ont pas content parce que je n'en dis pas le même genre que ce qu'ils avaient aimé.
Alors, ça,
quasiment chaque fois, il faut trouver.
Oui, c'est ça.
Mais.
Squat de salon.
Moi, j'écris pareil, pas pendant 3 ou 4 ans, alors ça me démoralise un peu, et puis je m'inquiète, et puis tout à coup, j'écris 4 romans en 2 ans, dont il y a un des romans que j'ai écrit en 12 jours. Donc, ça peut aller très vite. Le premier, j'ai par contre, moi, je travaille pas mal parce que. D'abord, je suis dysorthographique, dyslexique, ici, dis ça. Parce que, en tout cas, pendant longtemps, il fallait reprendre les choses. Puis quand ça allait trop facilement, ça m'a un peu déstabilisé.
Et donc, chez vous, par exemple, puisque vous faites aussi des films, si j'ai bien compris.
J'ai fait des courts-métrages qui ont très bien marché. Ça, et puis après, je me suis lancé, pardon.
C'est un autre rapport, il n'y a jamais d'adaptation d'un livre.
Actuellement, il y a un projet, mais il y a un peu vague d'adaptation de mes romans en film. Mais pas par moi, et voilà. Sinon j'ai fait...
Et c'est vraiment deux univers différents. Ouais.
Mais sauf que mon écriture normale, elle est extrêmement cinématographique. C'est vraiment une succession d'images. Et puis j'ai fait des courts-métrages qui ont très bien marché, puis après je me suis lancé dans un projet de long-métrage, mais il faut avoir les épaules très très solides pour lancer tout le truc. Voilà. Moi je n'ai pas les épaules solides.
Il faut être une machine de guerre.
Il faut être une machine de guerre, puis je me suis dit ni la guerre ni la machine.
Eh ouais. Donc, ou alors être complètement inconscient. C'est un peu...
il faut en tout cas être totalement inconscient.
Dirigeant les choses comme elles nous viennent.
Ouais.
Donc, madame, vous êtes la seule des trois qui vivez de votre plume, si on peut.
Je ne sais pas, vous deux. Moi oui. Je vis de ma plume, oui.
Moi, je fais que ça, mais je ne vis pas de ma plume.
Mais il a fallu longtemps, hein. Ça n'a pas été tout de suite. Hein. Ah, bah oui, quand même.
Malgré vos 5 bouquins par an.
Ouais, non, mais j'ai tout. Moi, j'étais prof de morale avant.
Oui, vous avez du
moral. Les anciens élèves que tu veux débarquer les bouquins d'astuces.
Et j'écrivais, et en même temps, j'ai publié des contes pour petites filles perverses.
Voilà. Parlez-nous juste pour terminer.
Mais c'est quoi un prof de morale? Qu'est-ce que c'est prof de morale?
En Belgique.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un prof de morale?
Ouais, c'est un peu ça, mais c'est des élèves qui suivent pas des cours de religion, ils vont à la morale, c'est laïque, quoi, c'est la liberté de penser, voilà.
Et après, c'est la morale athée. Ah, quelle horreur.
Et alors, il y avait mes collègues qui me disaient, parce que j'avais eu des articles dans les journaux pour les contes pour petites filles perverses, heureusement, il n'y a pas ma photo nulle part, et ils me disaient, mais t'as vu, il y a quelqu'un qui porte le même nom que toi, qui écrit des cochonneries. Et moi, j'étais, ah bon?
Parce que ces petites filles perverses, c'était des cochonneries.
Pour eux, parce que ils amalgament l'érotisme.
C'est destiné aux enfants, non?
Ah ben non, non pas. Non.
Non, mais les cours morales, c'était pour des... Quel âge?
Les enfants et ados.
Ah oui.
Non, les contes pour petites filles perverses, c'est érotique pour adultes, avec un côté fantastique.
Et ça, ça a été votre seul livre érotique?
Ah non, j'en ai écrit plein.
Ah, ouais. Vous avez fait de tout.
J'en ai écrit à la Musardine, chez Tabou. J'ai écrit des romans fantastiques, des romans historiques. Et puis, je suis entrée dans le polar par hasard, la série noire.
Voilà.
Et voilà, j'ai trouvé que c'était des gens super sympas. Je me suis dit, tiens, je préfère être dans des salons du polar avec des copains qui picolent, qui rigolent, tout ça. Je me suis dit, hop, je vais creuser le polar, comme ça.
C'est vrai que les salons du polar, enfin l'univers du polar, c'est vachement sympa. Hein.
Ouais. Ah ouais.
C'est vraiment relax. Hein.
C'est mieux que la science-fiction.
Pourquoi ils
sont...
Mais ici, c'est sympa comme salon, je trouve.
Oui.
J'aime beaucoup Morges, franchement.
Pour moi, c'est un des plus jeunes.
Non, mais ça, on s'en fout, ils sont gentils.
Ils sont gentils.
Le cadre est pas mal. Hein. Le cadre est pas mal.
Est-ce que vous avez une question?
J'aimerais voir la couverture de votre livre. Vous
la
grillez,
c'est celui-là? Non, ça, c'est groupé. Vous les grillez, c'est le même en orange.
C'est très bien pour les griller.
Ah, c'est gentil, merci.
Non, c'est vrai.
Ah, vous l'avez? Ben alors, oui. Alors, monsieur, c'est pour vous les griller.
Ah, super.
Et puis l'adaptation du film avec Michel Blanc, c'est... Quel est le titre du film?
Madame Édouard.
Qui est déjà sorti?
Oui, on peut le voir gratuitement sur YouTube. Vous tapez Madame Édouard et vous voyez tout le film. Il y a Dominique Lavanant aussi, il y a toute une une panoplie d'acteurs et c'est Benabar qui a fait la musique. Ah,
c'est toi qui l'as mis sur YouTube ou bien c'est un
Voilà. Après 10 ans, aujourd'hui, ça, les gens le voient.
Mais ça passait dans les salles, ou bien non?
C'est quoi?
Ça passait dans les salles, ce film, ou bien non?
Oui, bien sûr. Il passait dans plein, dans 250 salles. Mais il est sorti le jour d'Harry Potter.
C'est ça, avec le cinéma, je trouve que c'est dingue, parce qu'il y a un investissement qui est énorme en termes personnels, pendant 4 ans, 5 ans.
Ouais. Et puis tout d'un coup, t'as un connard de producteur qui dit « Ah, mais je vais sortir le jour d'Harry Potter ». Je dis « Mais attends, mais t'es fou, tu fais pas ça ». Il me dit « Mais toi, t'es réalisatrice, t'y connais rien, tu parles ».
J'y connais rien, mais Harry Potter, je sais
c'est quand même.
Un de mes courts-métrages a été déprogrammé parce que c'est le jour où Lady Di s'écrasait dans le tunnel.
Ah merde!
Mais c'est pas très grave, il est repassé après. Mais...
ah, moi j'ai un copain qui a sorti un film l'an dernier, le mercredi après les attentats du 13 novembre. Le film avait une super presse, c'était vraiment un succès annoncé.
En
direct.
Hein. Ouais, moi c'était aussi, ça a tenu une semaine.
Oui, c'est pour ça qu'on m'a donné le temps.
Je savais que ça avait été adapté les vacances de Samuel. Non, il n'est pas sorti. Je suis en cours, donc j'ai fait le scénario, mais non, je me suis fait jeter au Luxembourg parce qu'ils n'ont pas compris l'univers, mais j'ai un producteur belge, je cherche un producteur français qui aime bien cet univers-là.
Sinon, c'est Alba Michel.
Alors bon, on parlait de la quatrième de couve, c'est pour ça qu'elle est trouvée intéressante, la quatrième de couve.
Qu'ils ont biffé.
Je crois que ça, vraiment, comme tout ça, j'aime beaucoup.
Ah.
C'est pas
si, c'est la même quatrième de couve que la version grand format, mais ils ont biffé.
C'est qui t'a mis
C'était pas biffé.
C'était pas biffé sur la grande
version. C'est Stéphanie, j'adore.
Non, c'était pas biffé, mais...
Et moi, j'ai encore tout à fait compris votre différence avec les
c'est un monsieur, c'est un monsieur.
Mais un peu les policiers.
Vous voulez qu'ils vous voulez voir. Alors, c'est monsieur, hein. c'est son livre personnel.
Si la prêté à madame.
Vous ne le mangez pas.
Le même univers que Sébastien.
Oui, voilà.
Valérie et Miguel, qui était mon éditrice chez Pocket, m'a demandé d'abord.
Mais la question que j'avais, c'était quelle est votre différence vis-à-vis du roman policier traditionnel? Enfin, il y a eu San Antonio qu'on a fait, je ne veux pas dire avant vous, mais vous démarquez du roman policier traditionnel, de quelle manière? Il y a un petit côté peut-être sorcellerie, imaginez-vous.
J'étais passionnée par Frédéric Dard quand j'étais j'adore. Et c'était mon parrain littéraire, Frédéric Dard. Il m'a lancé pour la série du commissaire Léon. Mais j'ai toujours eu de l'humour. Donc, disons que là, ma première pièce de théâtre, c'était déjà très, très humour noir, quoi. C'était il y a 20 ans. Ça s'appelait La vieille folle. C'est sur ma grand-mère. Elle l'a pas vu, heureusement, parce qu'elle parlerait.
C'est ça, les personnages qui sont masqués dedans, faut pas le dire.
Comment vous intégrez la sorcellerie dans le roman policier? Ça m'intéresse.
Parce que je trouve qu'elle fait partie de la vie. Enfin,
vous pouvez raconter
de ma vie.
Vous pouvez raconter l'histoire qui se passe dans votre texte, dans votre livre, vous voulez pas raconter.
De quoi?
La sorcellerie, c'est la fée qui arrive. Et puis
Ah oui, non, ça c'est plus le délire. Non. La sorcellerie, c'est quand elle voit le fantôme aussi, quand il y a... Pour moi, de manière générale, je veux dire que les fantômes ou le surnaturel fait partie de mon quotidien, moi. Bon, je ne dis pas que je mange avec les fantômes, ça va. Mais voilà, c'est en Belgique, c'est quand même... On est beaucoup dans le surréalisme. Et je crois beaucoup aux choses bizarres, aux trucs de hasard et tout. Ça ne me fait pas peur, ça me rassure. Moi, au contraire, je me dis que ça... C'est qu'il y a peut-être autre chose, quoi. Et pareil, pour vous donner un exemple, pourquoi j'intègre ça, j'ai un fils qui a 37 ans, enfin j'en ai deux, 27-37, celui de 37 ans, depuis qu'il est tout petit, il a des prémonitions et ça arrive tout le temps, chaque fois. Et c'est très bizarre, quoi, c'est très perturbant. Au début, je me disais, mais attends, c'est quand même curieux, ce truc. Et au petit, il ne se rendait pas compte, quoi, il disait des trucs... Et moi, je notais ça dans des carnets, parce que tout ce qu'il disait ou que je trouvais curieux ou rigolo, des mots d'enfant, tout ça, je notais tout ça. Et un jour, des années après, j'ai relu ça et je me suis rendu compte que tout ce qu'il avait prédit était arrivé, quoi. Mais vraiment. Et à un point, je sais pas, moi, quand les vacances d'un serial killer est sorti, par exemple, mon éditrice de l'époque m'a dit j'aime pas ce bouquin. Elle était très hermétique à l'humour, donc voilà, c'est déjà mal, ça me paraît. Elle m'a dit je déteste. Et elle m'a dit ça va pas marcher du tout, ça va être un gros bide. Mais de toute façon, elle me dit je te le publie parce que tu as quand même un petit public. À l'époque, j'ai toujours vendu, mais pas bon, voilà, je cassais pas la baraque. Et voilà. Et moi, une semaine avant, j'avais le moral dans les chaussettes parce que je ne sais pas possible, quoi. J'étais vraiment, on est fragile en plus quand on sort un bouquin. Hein. Et là, mon fils me dit oh, ma maman, t'en fais pas, il va casser la baraque. Je dis mais non, je dis tu dis ça pour me rassurer et tout. Il dit non, il dit tu t'es toujours, quand je te dis un truc, ça arrive. Je dis bon, il me remonte un peu le moral. Il me dit ne t'inquiète pas, il va se passer un événement, il y a un truc, ça va. Mais quand il dit casser la baraque, c'est casser la baraque. Bon. Le bouquin sort à moi. Tout d'un coup, il y a un copain, Montmartre, qui m'appelle. Il regarde tout le temps la télé, moi pas. Il me dit attends, il y a un mec là, il ressemble à Tintin. Il fait un truc dithyrambique sur ton bouquin. C'est qui ? Il me dit c'est Gérard Collard, c'est un libraire. Moi, je connaissais pas. Et je dis, c'est dans quoi ? Il dit, c'est dans le magazine de la santé. Je dis, qu'est-ce qui va regarder ça ? Je dis, ça va, bon. Hein. Et en fait, je ne savais pas, mais Gérard Collard, il a un impact incroyable en France. Et j'ai vendu 250 000 exemplaires des vacances d'un serial killer. Donc, l'éditrice, en fait, elle a quitté Bellefond.
Elle n'a pas dit. Mais je l'avais toujours dit. Je l'avais prédit.
Ouais. Non, mais enfin... Et bon, ça, c'est pour dire qu'il y a quand même des trucs un peu extraordinaires comme ça. Et que c'est mon fils qui a commencé à me faire croire dans... À 5 ans, il me dit, « Maman, je vais avoir un très grave accident. » Quand je serai grand, mais ne t'inquiète pas, je vais revenir. Il y a une chose bizarre. Je note ça, et quand il a eu 20 ans, il va très bien aujourd'hui, tout va bien, il est dans mon film en plus, mais il a fait une chute de 7 mètres sur du béton, un mois de coma, 2 ans de rééducation, et moi je lisais, c'est tout ce qu'il avait écrit, et je retombe sur cette phrase que j'avais complètement occultée, parce qu'on n'a pas envie de penser à ça, et il m'avait dit, je vais revenir. Or, les gens dans le coma reviennent, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis il me dit, je nous vois dans un cimetière avec des projecteurs. Je n'oublierai jamais. Première scène de mon film avec lui, c'était dans un cimetière avec des projecteurs. Et on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Mais c'est très fort. Hein. C'est un truc que je ne sais pas l'expliquer, lui non plus. Et à un moment, il prenait ça comme une malédiction, quoi. J'ai appris un peu à l'aider à gérer ça. Mais donc, oui,
c'est un peu comme votre personnage.
Vous voulez dire le porte-malheur, Thorez ? Oui, lui, il n'a pas de prémonition, voilà. C'est juste qu'il...
Lui, il n'a pas de prémonition, mais tout ce qu'il fait...
Il porte malheur.
Les gens meurent.
Ouais. Enfin, il croit qu'il porte malheur. Bon, peut-être qu'il porte malheur. Peut-être que ça ne marche pas avec certaines personnes, mais après, lui, effectivement, mieux, plus personne ne veut travailler avec lui. C'est ça, croix.
Vous n'avez jamais eu des choses surnaturelles ou de hasard ou bizarre dans votre vie ?
Ma naissance.
Ouais.
Comme hasard.
Donc voilà, je crois que je vous remercie beaucoup de votre écoute.
Merci aussi.
Merci au public.
Vous êtes de grande qualité. Voilà.
L'assistante génique.
Alors je vous rappelle que nos écrivains signent sous la tente. Hein. C'est comme ça qu'on dit.
Oui,
voilà,
sur la tente.
Bon, j'ai pas besoin de vous rappeler les noms. Hein. Vous avez, on était assez proches, j'ai pas besoin de vous rendre compte
des numéros.
Et puis merci.
Merci à vous.